le suivi, donc, de cette décision rendue hier par le juge Mario Gervais de la Chambre de la jeunesse, qui a blâmé sévèrement la DPJ pour avoir failli à sa mission de protéger la fratrie, dis-je bien, le petit frère, en fait, de la fillette de Granby. On va aller rejoindre Jacques R. Roy, qui est un ancien juge à la Chambre de la jeunesse. Monsieur le juge, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Monsieur le juge, comment vous avez réagi d'abord quand vous avez lu ce jugement? Parce que, honnêtement, là, on savait que la fillette avait subi des sévices épouvantables, mais pour le petit frère, ça n'a pas été mieux. Il s'est fait mettre du ruban adhésif sur la bouche. Il a subi des douches froides parce qu'il pleurait trop ou parce qu'il était trop tannant ou on ne sait pas trop. Mais bref, c'est absolument épouvantable.
Tout à fait épouvantable. Puis évidemment que, comme on le dit, les pommes ne tombent jamais loin du pommier. Alors, dans ce cas-ci, il y avait un enfant là, à Granby qui avait 7 ans, qui avait été maltraité. Puis là, on s'aperçoit également que son jeune frère de 5 ans a subi également des traitements similaires. Puis le juge Mario Gervais, qui est un excellent juriste, mm-hmm. qui a pris le temps d'étudier le dossier, d'étudier la question de droit relativement à l'interdiction, on arrive à conclure qu'il faut blâmer la DPJ. Ce que je retiens, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la DPJ, encore une fois, est une partie devant le tribunal, devant la Chambre de la jeunesse. Elle n'a pas de statut privilégié. Puis le juge le mentionne également qu'il faut traiter les parents, les enfants, la DPJ comme des parties et non pas comme une partie privilégiée pour que la confiance du public dans notre système de justice soit préservée. Alors je pense que ce jugement-là illustre bien l'impartialité, la distance que le juge maintient face au DPJ, qui ne craint pas de blâmer dans une situation aussi exceptionnelle que celle-ci.
Là, quand
on parle de lésion de droit, hein?
Oui.
Allez-y, monsieur.
C'est parce que quand on prend connaissance du jugement, ce qui nous saute aux yeux, c'est que le juge dit, écoutez, là, la DPJ est imputable. La DPJ doit rendre des comptes. Ils ont lamentablement échoué. Et il reconnaît en même temps que la personne qui devait s'occuper du garçon, cette personne-là était à temps plein, était complètement débordée. Bref, il ne veut pas blâmer la travailleuse sociale ou l'intervenante. Il dit que c'est l'institution de la DPJ, dans le fond, qui ne s'est pas occupée de l'enfant correctement, qui n'avait pas les ressources pour s'en occuper, qui aurait dû le savoir. Et d'ailleurs, il note que quand la fillette est décédée, le CIUS ou le CIS, on ne sait plus trop comment ils appellent, là, qui est responsable de la DPJ en Estrie, le CIUS, ils ont demandé des ressources supplémentaires, puis ils ont eu. Puis là, le juge, il dit, dans le fond, il aurait dû y demander avant les motadites ressources pour s'assurer que la petite fille, pour s'assurer que son frère puisse être respecté dans leurs droits, puis qu'on s'en occupe correctement, puis peut-être qu'on aurait pu éviter bien des sévices.
Oui, en fait, c'est une distinction importante que vous mentionnez entre la DPJ, l'organisme de la protection de la jeunesse, et également les travailleurs sociaux, les femmes, les hommes qui travaillent dans ce système-là, qui sont manifestement débordés. Alors, le juge fait cette distinction-là, puis elle est fondamentale parce que les enfants du Québec ont droit d'avoir des services de qualité par un personnel compétent. Puis, on sait actuellement que, malheureusement, il y a un surcroît de travail, des conditions de travail qui ne sont pas toujours favorables, d'où l'importance de la commission qui est actuellement en train de siéger, où je suis allé témoigner également au mois de décembre, présidé par Mme Laurent, qui va faire. Puis le juge en tout début de son jugement, ce que vous avez mentionné, cite précisément les paroles de la présidente qui dit qu'elle va retourner toutes les pierres du jardin pour faire la lumière, de façon à ce que ça soit évité à l'avenir. Dans ce cas-ci, il faut mettre toutes les attentions pour faire connaître le drame de cet enfant-là et de ses autres enfants, parce que ça implique quand même 3 enfants, ce dossier-là indirectement. Mm-hmm. Alors, je trouve que c'est un jugement d'importance, puis ça va permettre également de suivre encore davantage les autres enfants et le rapport de la commission qui va être rendu au mois de novembre. C'est quand même rapide, jusqu'à un certain point dans le cadre d'une commission d'enquête.
C'est un jugement important parce que le juge Gervais dit c'est vrai que la DPJ m'ont demandé de ne pas rendre public le jugement, mais je suis pas d'accord. Il faut à un moment donné que le grand public sache ce qui se passe dans le système de la DPJ. Donc, je vais le rendre public, le sacré jugement. Je veux que les gens sachent ce qui se passe. Et à travers ça, il dénonce l'espèce de loi du silence qui s'est installée progressivement au sein de la DPJ. Ils se protègent entre eux. Je suis certain, monsieur le juge, que dans certains cas, tu as des intervenants, des intervenantes, c'est beaucoup des femmes, qui aimeraient ça sortir pour dire je suis pas capable de m'en occuper correctement de ces enfants-là parce que j'en ai trop, j'ai trop de dossiers. Mais si je le fais, ils vont me sanctionner, ils vont me menacer de me faire perdre mon travail. Puis là, les supérieurs de ces employés-là se taisent aussi parce qu'ils ont peur. Puis les supérieurs des supérieurs ont peur. Puis finalement, c'est l'omerta.
Oui, je pense que vous faites une analyse de ce jugement-là et de la situation fort intéressante. En ce sens que je pense qu'on reconnaît que c'est fondamental que ces situations impliquant des enfants et des parents demeurent confidentielles. Il faut s'entendre. De façon à ce que ces enfants-là ne soient pas stigmatisés sur la place publique quand leurs noms sont divulgués. On s'entend avec ça. Oui. Mais il y a des circonstances exceptionnelles comme celle-là et comme d'autres qui doivent être dénoncer. Puis quand vous dites que le DPJ devrait également être plus transparent, je pense que c'est souhaitable qu'au lieu de dire qu'il y a eu 125 signalements des statistiques pures et simples, le DPJ devrait être là pour défendre les enfants. Puis défendre les enfants, ça veut dire précisément de les protéger adéquatement. Protéger adéquatement, c'est de fournir des services, un personnel adéquat. Alors, c'est important que le DPJ soit présent sur la place publique, puis qu'on puisse savoir ce qui s'y passe. Encore une fois, M. Drainville, sans qu'on révèle cependant l'identité de tel enfant qui risque à ce moment-là d'être stigmatisé dans ses jeux ou à l'école ou sur le terrain de jeu.
Monsieur le juge, vous avez été à la Chambre de la jeunesse pendant combien d'années?
Pendant 15 ans.
Bon. L'avez-vous vu, la détérioration? Avez-vous vu progressivement cette loi du silence s'installer? C'était de plus en plus difficile de savoir ce qui se passait. Est-ce que l'avez-vous observé l'espèce de... Je ne sais pas quel mot utiliser.
Je pense que si, indirectement, en ce sens que les cas sont de plus en plus douloureux, sont de plus en plus... Les dossiers devenaient de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Ce que je regrettais, c'est que lors des rapports annuels de la DPJ, c'était seulement des statistiques. On ne venait pas dire exactement le désarroi des services, le désarroi des travailleurs sociaux, la gravité des cas soumis au point de vue agression, au point de vue négligence. Alors, je pense qu'on arrive, après 40 ans d'existence de cette loi-là, à un moment crucial, à un carrefour, avec cette commission spéciale, puis j'ose espérer que les années à venir vont être plus heureux. Je pense qu'il est temps, après 40 ans, là, de prendre le temps, le point. Il y a quand même 12 membres de cette commission-là.
Oui.
Je suis allé, comme je vous le disais, je trouve ça impressionnant. Puis j'attends avec grande hâte les conclusions de cette commission d'enquête.
Ah, nous autres aussi. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'une société laisse tomber. Ça n'a pas de bon sens qu'une société laisse tomber ses enfants comme ça, là. Ça n'a absolument pas de bon sens. Jacques R. Roy, ancien juge à la Chambre de la jeunesse. J'aime bien dire que vous êtes une sorte de sage pour nous dans ce dossier-là. On apprécie que vous nous parliez, monsieur le juge.
Ben, je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.
Merci beaucoup. Dans un instant, on va vous parler de ce condamné criminel. Il a assassiné sa conjointe et puis, il a été condamné pour meurtre. Et là, il s'est fait une nouvelle amoureuse. Il est en dedans et puis il prend des photos. Et puis, il met ça sur Facebook. Et puis, il parle au cellulaire. Je veux dire, tout va bien. On est en prison, mais en quelque part, on a encore pas mal de liberté. C'est assez hallucinant et ça se passe au Québec.